Comme le titre l'indique, nous allons lire et essayer de comprendre le premier chapitre, enfin les 12 premiers versets du premier chapitre de lettre de Pierre à des personnes. Pour introduire ce moment où on va parler de l'espérance, du salut, nous voyons que le salut s'opère toujours entre deux personnes visibles. Le salut militaire était d'abord un signe de paix et de fraternité. Ensuite, les chevaliers ont repris ce signe en geste de courtoisie. Les militaires ont ensuite repris ce signe comme un geste de fidélité. Dans notre langage courant, c'est plutôt un signe pour souhaiter une bonne journée aux gens, pour souhaiter un bonjour. Quant à Dieu, il nous salue et nous donne le salut. Et ainsi, nous entrons dans son cercle de visibilité. C'est aussi un signe de paix que Dieu nous fait, que Dieu fait avec nous. Et dans le langage biblique, je joue sur les mots, mais dans le langage biblique, le mot « salut » veut dire « qui sauve de quelque chose ». Et on va voir un peu ce que Dieu fait dans la suite de ce texte. La première épître de Pierre n'est pas écrite par Pierre, mais elle est écrite sous l'autorité de Pierre quand même. Je vous rassure. Elle est écrite à des gens qui habitent en Bithynie, en Cappadoce, en Asie, dans différents endroits. Et on l'a appelé Pierre, l'épître de Pierre. C'est plus simple que de nommer tous les destinataires. Pierre était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Il a commencé son ministère auprès d'un public juif. Et il a ensuite continué vers un public d'origine non-juif. Et là, il s'adresse à des non-juifs. Pierre va les réconforter dans cette épître quant à leur foi au niveau des souffrances. Nous lisons le premier chapitre et les 12 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, et puisqu'une fois affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges y désirent. Et les anges désirent y plonger leur regard. Ce texte nous parle donc de l'espérance d'être avec Dieu, cette espérance qui est donnée par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ aux élus. Autrement dit, ce texte nous parle de l'espérance d'être salué de Dieu. Et ce texte nous pose deux questions. Que fait Dieu et que font les hommes? Que fait Dieu? Premièrement, Dieu les a élus, au verset 1, élus qui sont étrangers dans la dispersion, au verset 2, élus selon la préscience de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des personnes qui étaient du peuple juif. Une des nouveautés du Nouveau Testament, parce que s'il est nouveau, c'est qu'il y a des nouveautés aussi, c'est que Dieu choisit des personnes qui ne sont pas d'origine juive. Là, Pierre les réconforte parce qu'ils ne sont pas aussi ils ne sont pas juifs et Dieu les choisit quand même. L'élection de Dieu, dans ces deux premiers versets, ne se fait pas, du coup, selon l'origine de la personne, mais selon sa préscience. Encore des termes un peu techniques. Préscience, on pourrait dire désignée d'avance, ou que Dieu connaissait à l'avance ce qui se passerait. Ça se connaître à l'avance, c'est la définition du dictionnaire. Donc Dieu les a choisis en connaissant à l'avance ce qui se passerait. Et c'est pour ça qu'on parle que Dieu les choisit selon sa préscience. Tout à l'heure, nous chantions « Dieu tient tout entre ses mains, Dieu est grand ». Et si ce n'est pas Dieu qui choisit les hommes, c'est-à-dire que c'est les hommes qui vont vers Dieu, et ça pose un problème. Ça pose le problème que Dieu ne serait pas si grand que ça. Parce que nous, des simples hommes, qui n'arrivons pas à faire tout ce que nous voulons, allons vers Dieu. Donc Dieu ne serait pas si puissant qu'on le chante. Et ça serait contraire un peu à ce que nous dit la Bible. Donc c'est Dieu qui nous choisit parce que c'est lui qui est Dieu, c'est pas nous qui sommes des dieux. Ce choix, il le fait par la sanctification de l'esprit, par la consécration de l'esprit. Autrement dit, Dieu met à part des personnes en les consacrant à lui par son esprit. Dans quel but ? Dans le texte, il parle souvent du comment et du pourquoi. Et là, on est dans le pourquoi. Le pourquoi, c'est un des buts, mais pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion du sang. Dans l'Ancien Testament, on aspergeait de sang tout ce qu'on consacrait, enfin les choses qui étaient consacrées à l'Éternel. Les ustensiles qui allaient servir au culte, on les aspergeait de sang pour le consacrer à l'Éternel. Moïse a aspergé de sang des gens pour les consacrer à Dieu. Avant l'Exode, on a mis du sang autour des portes pour dire que ces gens étaient consacrés à Dieu. Le sang a un signe pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont consacrés à Dieu, choisis par Dieu. Et si Dieu choisit des hommes pour lui être consacrés, c'est pour être disciple de Jésus-Christ, pour lui obéir. Pierre, dans ses 12 premiers versets, insiste sur le fait que c'est bien Dieu qui choisit, en disant que c'est Dieu qui fait miséricorde, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui nous réconcilie avec lui. Plus tard, au verset 5, il va dire que c'est Dieu qui garde par sa puissance. Et ce n'est pas les hommes qui se gardent par eux-mêmes d'être avec Dieu. Dieu ne fait pas que ça. Une fois qu'il les a élus, il les régénère. On pourrait dire qu'il les génère à nouveau ou qu'il les recrée à nouveau. Quand Dieu consacre des personnes, encore une fois par son esprit, ces personnes changent et deviennent une nouvelle personne. Ce qu'on va appeler la régénération, et c'est ce qui est symbolisé par le baptême que les personnes prennent pour s'engager avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans une nouvelle vie avec Dieu. Et cette régénération est possible par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On pourrait dire tout simplement que l'homme a deux vies, une avant sa régénération et une après. Jésus a aussi entre guillemets deux vies, une avant sa résurrection, même s'il reste le même éternellement, et une après. Et c'est à partir du moment où Dieu ressuscite que l'homme, par l'Esprit de Dieu qui est en lui, s'identifie au Christ, parce que c'est le même esprit. Et c'est pour cela que c'est par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts que les personnes sont identifiées à Dieu. Cette identification, du coup, n'est pas physique, comme je le dis, elle est par l'esprit. L'esprit est Dieu, Jésus est Dieu, l'esprit est en l'homme, et il y a une chose commune, c'est pour ça qu'ils sont liés par l'esprit. Je ne dis pas encore une fois que ces hommes sont des dieux. Je dis juste qu'ils ont une partie de Dieu en eux. Et si je dis qu'ils ont une partie de Dieu en eux, C'est pour insister sur le fait que eux, simples hommes, ont été choisis par Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui tient tout entre ses mains, le Dieu puissant. Des simples bonhommes, des simples hommes qui sont agacés sur la route, qui s'énervent au travail, ont une partie de Dieu en eux. Pourquoi Dieu les régénère aussi ? C'est pour leur donner un héritage, le salut. L'héritage que Dieu donne aux hommes est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui est préparé dans les cieux, prêt à être révélé dans les derniers temps. La grande famille, la gendarmerie, donne la définition suivante de la corruption. Ils disent que c'est un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveur ou d'avantage particulier. L'héritage que Dieu donne ne peut pas se corrompre. Personne ne peut le changer. Dieu a promis qu'il donnerait un héritage et il ne pourra pas l'enlever. Sinon, c'est lui qui serait quelque part corrompu et puis il serait menteur. Il me semble, à mon sens, que ce serait contraire à la nature de Dieu. On peut discuter de ça, ça serait à développer. Mais l'héritage, il ne peut pas se souiller non plus. C'est-à-dire qu'il est pur, vu que c'est Dieu qui le donne. L'héritage est donné une fois pour toutes aux personnes qui sont réellement régénérées. L'héritage que Dieu donne est sûr. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Souvenez-vous ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et ce qui est réalisé dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous quand je vous parlais du prophète Agé. Ésaïe avait prophétisé 200 ans avant la reconstruction du temple en donnant le nom précis sous lequel le temple serait reconstruit. Souvenez-vous ce que Dieu vous a peut-être promis et ce qui s'est réalisé. Ce que Dieu promet, il l'accomplira. Mais cette espérance, pour le moment, ils l'ont seulement en espérance, forcément. Cet héritage, pardon, ils l'ont forcément en espérance. Il est préparé dans les cieux. Cette espérance est vivante. Pierre, dans son texte, dans son écrit, prend soin d'opposer la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts avec une espérance vivante. L'espérance, quand il est ainsi survivante, c'est pour dire qu'il n'est pas mort, justement. Cette espérance, elle est active. Ce n'est pas des hommes qui sont là, comme des légumes, à attendre un type sur un nuage arriver, en train de faire du surf, qui reviendra à la fin des temps. Cette espérance, elle est vraiment active. Ils se mettent en mouvement. Cette espérance les pousse à agir, à la partager. Dieu le Père donne un héritage. Et cet héritage, personne ne pourra l'enlever. Cet héritage est donné aux personnes qui sont régénérées, qui sont sanctifiées par le sang du Christ. Les personnes qui sont purifiées, qui sont pures aux yeux de Dieu, par le sang du Christ, n'ont plus de péché en eux, aux yeux de Dieu, par le sang du Christ. Ça, c'est ce que Dieu fait. C'est déjà pas mal. Ce que les hommes font, mais il ne reste pas grand-chose à faire, en fait. On a vu dans le texte que les hommes ont recherché cette grâce. Des dizaines et des centaines d'années avant, l'Ancien Testament nous relate des personnes qui ont passé leur vie à rechercher, avec sérieux, avec minutie, quand est-ce que cette consécration allait arriver. Jérémie, 650 ans avant eux, a prophétisé sur cette relation en Jérémie 31. Au verset 12, Pierre nous parle des anges, que les anges désirent y plonger leur regard, que les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Les anges ne sont pas n'importe qui. Les anges ont une position particulière, ce sont des ambassadeurs de Dieu, ils font aussi fonction de messagers. Dans l'évangile selon Luc, la gloire des anges est liée à la gloire du Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, prend soin de différencier Jésus des anges. Parce qu'il y a des fois, on peut amalgamer les deux. D'ailleurs, il y en a qui encore amalgament les deux. Et c'est pour ça que si même les anges, qui ont une position assez particulière, désirent plonger leur regard, sont contemplatifs face à la grâce de Dieu, si des personnes ont passé leur vie à rechercher quand est-ce que cela devait arriver, à combien plus forte raison ces habitants de Galatie, de Cappadoce, de Bithynie, d'Asie, du pont, ne doivent pas prendre cette espérance à la légère et doivent se réjouir. Et c'est le deuxième point de ce que les hommes doivent faire. Les hommes tressaillent d'allégresse. Verset 6 et verset 8 nous est parlé que les hommes tressaillent d'allégresse. Verset 8 même parlé, ils tressaillent d'une allégresse indicible et glorieuse. Tressaillir, on peut prendre comme synonyme sursauter, frémir. Le dictionnaire parle aussi d'être parcouru d'une secousse après une vive émotion. Le mot allégresse a plutôt une signification de joie active. Alors la respérance est tellement forte qu'ils se mettent en mouvement, que leur joie est active et qu'ils ne sont pas là à juste réfléchir en disant « oui, c'est très bien, je suis content ». Mais Pierre n'est pas perché. Il voit bien qu'il y a des souffrances. Et c'est pour ça qu'il va en parler au verset 7, où il va dire « quoique votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ ». S'il encadre la souffrance entre le verset 6 et 8, verset 7, milieu, c'est pour insister que ces souffrances sont rien par rapport à la joie que procure cet héritage. Je ne pense pas qu'il parle de toutes les souffrances. Je pense qu'il parle des souffrances liées à la foi. Des souffrances qui sont faites, des épreuves qui sont faites pour grandir dans la foi. Je prends par exemple, pour les étudiants ou pour les enfants, ils apprennent une discipline particulière. Ils sont à l'école, ils apprennent. Et puis, pour valider leur examen, ils doivent passer des épreuves. Et ça ne viendrait pas à la tête d'un étudiant dire « je n'ai pas besoin de cet examen, je sais ce que je vaux, je suis assez bon pour ça ». Non, on passe un examen et on voit à quel pourcentage on a compris la discipline. L'examen est nécessaire pour le jeune, mais aussi pour l'enseignant. L'examen révèle vraiment qui nous sommes. Dans des épreuves, on se croit fort, on a des grandes théories sur la souffrance, mais quand ça ne nous a pas atteint, c'est difficile de dire la même chose. Une fois qu'on a réussi cet examen, on sera fier de les présenter à l'entretien d'embauche, à nos familles. Et il en est de même avec la foi. Nous serons fiers de présenter à Dieu, de se présenter à lui en ayant fait tout notre possible pour lui. Tout notre possible qu'on fera sera fait grâce à lui, par l'Esprit qu'il aura placé en nous. Car Dieu nous garde par la puissance, par son Esprit. Si on essaye un peu de résumer cette introduction à l'épître de Pierre, c'est Dieu qui met à part des personnes pour être des disciples du Christ en leur donnant son Esprit. Ces hommes sont certes éprouvés par des épreuves à cause de leur foi, mais l'héritage que Dieu leur promet, l'héritage que Dieu leur destine, est plus grand que cela. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances actuelles et la gloire à venir. Pierre leur lance un appel à se réjouir de cet héritage que Dieu leur donne par pure grâce. Et c'est ce qui nous amène à savoir ce que nous allons faire maintenant avec ce texte. Il y a des dimanches où je n'ai pas forcément envie de venir à l'église. Je n'ai pas forcément envie de me lever. J'ai passé une semaine pas toujours agréable. Le samedi n'a pas été toujours agréable. Mais je viens parce que je commence à culpabiliser. Donc je viens. Diane, à l'entraîne, me souhaite le bonjour, me demande ça va, je dis oui, ça va avec un grand sourire, mais pas du tout. Je repars, c'est passé 3 heures, et j'ai perdu, entre guillemets, mon temps. D'autres moments, j'ai passé une super semaine, travail impeccable. La veille, j'ai vu un match de l'ASM, avec des frères, avec une boisson pétillante. C'était un super moment. Je reviens au culte, je suis content, je salue Diane avec sincérité. Et je repars. La semaine recommence. Et les questions que nous pose ce texte sont les mêmes pour ces personnes. Qu'elles viennent par envie, par tradition, ou qu'elles viennent juste pour faire plaisir à leurs amis. Ces questions sont en quoi j'espère réellement? En quoi je place mon espérance? Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie? Est-ce que l'espérance qui est en moi est bien vivante? Si oui, qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la rend vivante? Et comme ça, je pourrais mieux glorifier Dieu si j'arrive à identifier ce qui la rend encore vivante. Sinon, qu'est-ce qui ne la rend pas vivante, justement? Est-ce que nous sommes vraiment conscients de la grâce que Dieu nous fait? Je vous propose de prendre quelques minutes de silence pour réfléchir à votre vie, savoir ce qui fait de votre vie l'héritage, l'espérance. Qu'est-ce qui est votre espérance dans votre vie ? Soyons donc dans la joie, car le Dieu créateur, le Dieu parfait, nous a donné un héritage. Réjouissons-nous de ce que Dieu a fait sa demeure en nous par son esprit. Dieu nous a donné un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, et qui est prêt à être ouvert. Que l'espérance qu'il nous a donnée puisse se voir au travers de nos actes, nos pensées, nos agissements. Que cette espérance soit vivante.